À mots ouverts. L'émission qui fait la part belle aux mots. Ceux qui sont dits, adressés, chantés. Une émission pour donner corps, pour donner voix. Et ouvrir plein de fenêtres sur des mondes où se font des rencontres.
Est-ce parce qu'en ce mois d'août, le soleil s'est éclipsé et qu'il a fallu chausser des lunettes pour ne pas se brûler la rétine? Est-ce parce que les incendies ont craché en de multiples points leurs flammes dévastatrices? Est-ce parce que l'humain jongle avec le feu et son soi-disant pouvoir d'être supposément supérieur? Entre pourquoi et parce que j'oscille, je cherche, je me perds. Pour ces raisons précitées et d'autres que j'ignore encore. Toujours est-il que j'ai eu envie aujourd'hui de vous conduire dans d'autres contrées, des contrées parallèles où parfois les monstres prennent des visages surprenants, voire déconcertants. Aujourd'hui, l'émission s'intitule « Monstre et moi », un titre en deux mots, mais sans doute aussi en trois. À mes côtés, André et Pierre-Louis, aux manettes et à la voix. Le monstre serait-il de façon évidente et définie celui que l'on croit, voire que l'on désigne? Ici, nous sommes à la lisière des possibles. Nous marchons et nous marcherons tout du long de cette émission sur un fil avec la prudence d'un fakir qui se déplacerait sur des tessons de bouteilles tranchants. Nous cueillerons des cailloux à foison, que nous glisserons dans nos chaussures comme tant d'autres font un nœud à leur mouchoir. Justement, n'oublions pas, nous avons reçu des mots qui viennent juste, vraiment juste, de m'être dévoilés. Les voici. Ce sont ceux de mon amie Christine, de la région grenobloise. Elle se reconnaîtra. Entropie. Vent, brumeux, rose, âge, vitesse. Pour engager nos pas, écoutons maintenant Home de Michel Petrucciani, dont la courte vie, quoique bardée d'obstacles, n'a pas empêché son talent incontestable de s'exprimer. Michel, atteint de la maladie des os de verre, avait des mains en or et les touches du piano vibraient sous ses doigts.
Thank you.
Alors voilà, pendant qu'on entendait le piano, ce voyage, cette proposition, là, dans les oreilles, moi j'ai écrit, vraiment. Ce n'est pas un mensonge, non. Je me suis mise à la table et je me suis emparée de certains des mots de Christine. Ainsi, avec le mot « entropie », j'ai fait un acrostiche. Alors, je rappelle pour les auditeurs ce qu'est un acrostiche. J'ai écrit le mot « en hauteur », tout en, pas en longueur, n'importe quoi, à la verticale. Et à partir de ces lettres, j'ai écrit un vers chaque fois. Donc, « entropie », je l'ai écrit à la verticale. Et voilà ce que ça a donné. « Elle bat des ailes, née au vent, tressée de souffle, rose virant au rouge, or pointé, pépite dispersée, illusion virevoltante en quête de brume. » Vous pourrez remarquer que dans ce petit poème, dans ce poème acrostiche, j'y ai glissé des mots, d'autres mots proposés par Christine. Vent, rose, brume. Voilà. Un second petit poème, là, plutôt sous forme de haïku. Donc, je le rappelle, 5, 7, 5. Normalement, sans faire de rime. Mais bon, voilà. Brumeux à souhait, des âges à toute vitesse, tourmentés de vent. Vous aurez noté qu'il y a brumeux, âge, vitesse et vent. Un autre haïku, à peine une trace, en bord de brume rosée, sur les lignes d'âge. Alors, j'ai un peu triché. Brumeux est devenu brume et rose est devenu rosé. Quant à l'âge, il y est, et je crois que je n'ai rien oublié. Il me semble avoir utilisé tous les mots de Christine. Merci Christine, à distance, et poursuivons notre chemin. Donc gratte nos ouïes du bout de l'ongle. Serait-ce les mots? Serait-ce un de ces êtres en proie à sa monstruosité et sorti de l'écran d'une salle obscure? Serait-ce Yomedine, le magnifique lépreux du film du réalisateur égyptien Aboubakar Chaouki, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas très douée, qui part en quête de sa famille à bord d'une carriole improbable et chaotique tout autant que lui? Serait-ce l'homme éléphant capturé en noir et blanc par David Lynch? Ou bien encore la fille aux yeux sans visage de Georges Franju? Entendre des essieux couiner, à moins que ce ne soit un oiseau des bois affublé du nom d'oiseau de malheur. Annoncerait-il la venue d'Antonin qui, par son errance dans les replis de guerre, est devenu bête traquée dans le film de Gabriel Le Bomain? Ou inviterait-il Blaise, alias Monsieur, revenu des tranchées avec la gueule en moins? Bérénice Picha, l'autrice de La Petite Bonne, pourrait peut-être nous le dire. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un enfant. Il ne marche nulle part, cet enfant, hormis dans ses rêves mouvants. Il semble dormir dans le repli d'un sanctuaire. Avec Cécile Coulon, soulevons le voile entre les pages du Visage de la Nuit. Depuis le seuil, la figure de l'enfant n'était qu'une tache sur l'oreiller. Une moisissure énorme, sans corps, une masse de sang et de croûte, un animal crevé sur des draps secs. Seule la respiration lente et douce troublait ce monstrueux tableau. « La vie persiste, » pensa le prêtre. « Quoi qu'il arrive, même au milieu du désastre, elle continue de continuer. » Il pria longuement, effaça les murs gris, la lumière dure, le grondement du futur, les hurlements du Père, libérant son âme de tout ce qui était arrivé et de tout ce qui pourrait advenir. Son esprit devint une limbe et son corps un sentier dépouillé. L'épreuve serait grande, interminable. Il cherchait en lui les forces nécessaires, non pas pour surmonter cette épreuve, mais pour la vivre entièrement, pour passer à travers elle, pour l'embrasser et la contenir. Il savait qu'elle était insurmontable, incontournable, et que la seule manière de n'y perdre ni l'enfant ni lui-même était de vivre à l'intérieur de ce moment qui durerait une vie entière. Il avait besoin d'une puissance sans savoir si cette puissance serait suffisante. Alors il pria. Le sang coulait dans sa bouche, la peur dans ses muscles, mais il ne pliait pas. Toute sa vie, il avait pensé que Dieu le préparerait à traverser une tempête à nul autre pareil. Et dans le lit face à lui, le déluge attendait qu'il approche, et dès qu'il ouvrirait les yeux, dès qu'il ferait un pas, sa vie, celle de l'enfant, celle du village changerait. Il le savait, ou plutôt, il le sentait, parce que c'était cela qu'il travaillait depuis si longtemps dans sa chapelle. Sentir, deviner ce qui complotait contre son petit univers du fond du puits. Ici, l'avenir empestait.
Devant lui, à côté de la fenêtre, le prêtre, un miroir cerclé de bois entre les mains. Dans l'encadrement de la porte, derrière eux, madame. Pas un bruit dans la chambre. Dehors, un léger chuintement. Les paumes appuyées sur ses genoux, les pieds sur le plancher, l'enfant fixait son reflet. Il se tenait ainsi, immobile, depuis de longues minutes, les yeux rivés sur le miroir. Parfois, il bougeait un peu la tête. Alors, ses plaies se déplaçaient. Les lignes au-dessus des yeux, à l'endroit des sourcils brûlés, se pliaient comme de la paille. Un filet de salive passait par-dessus ses lèvres gonflées. Il déglutissait, et dans ce moment-là, madame frissonnait très légèrement. Ses mains avaient deviné l'horreur du masque que l'enfant porterait toute sa vie. Et ses mains, à présent, lui disaient tout de chaque mouvement, de chaque saignée, de chaque cicatrice. Ses mains traçaient, à la place de ses yeux, les trajets du rire, de la peur, les tressaillements d'émotion, les grands points d'interrogation que la curiosité lui creusait au front. Ses mains dessinaient ce visage, et chaque fois c'était une douleur pour elle. Ses mains lui interdisaient d'imaginer un avenir paisible.
Le prêtre avait craint une crise de panique, de colère, une de ces montées d'émotions dont seuls les enfants sont capables. Pourtant, le garçon semblait fasciné par son propre reflet. Attiré par le miroir, il inspectait chaque parcelle de son visage détruit. Le prêtre tentait de deviner les pensées qui agitaient sa jeune âme, mais déjà cette âme avait grandi, poussée comme une plante magique. L'enfant ressemblait à un prince chétif et martyrisé, mais un garçon au-delà des autres garçons. Enfermé dans sa tour qui n'était pas d'ivoire ni de feu, mais de paille et de vitraux. Un prince gangrené, ne souffrant point de sa condition de monstre, mais de sa condition de mortel. Un prince, oui, seul ce mot venait dans la bouche du prêtre, qui n'osait parler ni bouger. Le garçon, extatique, apprenait son visage, une leçon d'horreur.
Au bout d'un long moment, il leva les paumes et les passa devant ses yeux, dans ses cheveux, puis les joignit sur sa nuque. Le silence était brisé. Le prêtre demanda à madame de remporter le miroir dans sa chambre. Et quand elle eut disparu, l'enfant, soudain, frappa du poing la cuisse de l'homme d'église. Plus surpris que blessé, le prêtre le laissa 10 fois, 20 fois cogner contre sa jambe. Il se tenait debout. Et le garçon, dont les pieds rivés au sol tremblaient de colère, frappait encore et encore, ses phalanges recroquevillées en un point incapable de détruire ou d'abîmer, heurtant à peine la robe usée. Cette main fermée cognait le muscle comme elle aurait cogné le bois, l'air ou la surface mouvante d'une flaque. Elle n'atteignait rien, ne provoquait qu'un faible remous dans le cœur de celui qui avait recueilli la créature.
Faisons une pirouette et rejoignons la hutte dissimulée sous les branchages de l'île du docteur Moreau de Herbert George Wells. Voyons ce qu'il s'y passa.
C'était une hutte semi-circulaire, ayant la forme d'une demi-ruche d'abeilles. Et contre le mur rocheux qui formait la paroi intérieure, se trouvait une provision de fruits variés, noix de coco et autres. Des ustensiles grossiers de lave et de bois étaient épars sur le sol, et l'un d'eux était sur une sorte de mauvais escabeau. Il n'y avait pas de feu. Dans le coin le plus sombre de la hutte était accroupie une masse informe qui grogna en me voyant. Mon homme singe resta debout, éclairé par la faible clarté de l'entrée, et me tendit une noix de coco ouverte, tandis que je me glissais dans le coin opposé où je m'accroupis. Je pris la noix et commençai à la grignoter. L'air aussi calme que possible, malgré ma crainte intense et l'intolérable manque d'air de la hutte. La petite créature rose apparut à l'ouverture, et quelques autres bipèdes, avec une figure brune et des yeux brillants, vint aussi regarder par-dessus son épaule.
« Hé ! » grogna la masse indistincte du coin opposé.
« C'est un homme ! C'est un homme ! » débita mon guide. « Un homme ! Un homme ! Un homme vivant, comme moi ! » !»«
Assez ! » intervint avec un grognement la voix qui sortait des ténèbres.
Je rongeais ma noix de coco au milieu d'un silence impressionnant, cherchant, sans pouvoir y réussir, à distinguer ce qui se passait dans les ténèbres.
« C'est un homme ? » répéta la voix. « Il vient vivre avec nous ?»
La voix forte, un peu hésitante, avait quelque chose de bizarre, une sorte d'intonation sifflante qui me frappa d'une façon particulière. Mais l'accent était étrangement correct. L'homme singe me regarda comme s'il espérait quelque chose. J'eus l'impression que ce silence était interrogatif.
« Il vient vivre avec vous, dis-je. »«
C'est un homme. Il faut qu'il apprenne la loi. »
Je commençais à distinguer maintenant quelque chose de plus sombre dans l'obscurité. Le vague contour d'un être accroupi, la tête enfoncée dans les épaules. Je remarquais alors que l'ouverture de la hutte était obscurcie par 2 nouvelles têtes. Ma main serra plus fort mon arme. La chose dans les ténèbres parla sur un ton plus élevé.
« Dites les mots !»
Je n'avais pas entendu ce qu'il avait annoncé auparavant. Aussi répéta-t-il sur une sorte de ton de mélopée.
« Ne pas marcher à 4 pattes, c'est la loi. »
J'étais ahuri.
« Dites les mots !» bredouilla l'homme singe.
Lui-même les répéta, et tous les êtres qui se trouvaient à l'entrée firent chorus avec quelque chose de menaçant dans leur intonation. Je me rendis compte qu'il me fallait aussi répéter cette formule stupide, et alors commença une cérémonie insensée. la voix, dans les ténèbres, entonna phrase à phrase une suite de litanies folles que les autres et moi répétâmes. En articulant les mots, ils se balançaient de côté et d'autre, frappant leurs cuisses, et je suivis leur exemple. Je pouvais m'imaginer que j'étais mort, et déjà dans un autre monde, en cette hutte obscure, avec ces personnages vagues et grotesques, tachetés ici et là par un reflet de lumière, tous se balançant et chantant à l'unisson.
« Ne pas marcher à quatre pattes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ?»«
Ne pas laper pour boire, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ?»
Ne pas manger de chair ni de poisson, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ?
Ne pas griffer l'écorce des arbres, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ?
Ne pas chasser les autres hommes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ?
Ne pas marcher à quatre pattes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas laper pour boire, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas manger de chair ni de poisson, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas griffer l'écorce des arbres, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas chasser les autres hommes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ?
On peut aisément imaginer le reste. Depuis la prohibition de ces actes de folie jusqu'à la défense de ce que je croyais alors être les choses les plus insensées, les plus impossibles et les plus indécentes. Une sorte de ferveur rythmique s'empara de nous tous. Avec un balancement et un baragouin de plus en plus accélérés, nous répétâmes les articles de cette loi étrange. Superficiellement, je subissais la contagion de ces brutes. Mais tout au fond de moi, le rire et le dégoût se disputaient la place.
Ne sommes-nous pas des hommes ? Ne pas chasser les autres hommes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ? Pendant le temps ténu et précieux de l'éclipse, nous avons vu les revers du monde, en partie tout du moins. Qui sait si nos reflets n'ont pas subi quelques métamorphoses qui se révéleront à nous quand le voile lèvera sa coupe ? Je vous laisse à vos errances dans la nuit, comme en plein jour. Sans doute nous retrouverons-nous plus tôt que nous ne l'imaginons. Amis auditeurs, à très bientôt. Surtout, avant de nous quitter, n'oubliez pas de m'envoyer des mots pour que je puisse écrire le temps de l'enregistrement d'une émission future. À vos stylos, à vos mots, à vos imaginations.
À mots ouverts. L'émission qui fait la part belle aux mots. Ceux qui sont dits. Adressés, chantés. Une émission pour donner corps, pour donner voix. Et ouvrir plein de fenêtres sur des mondes où se font des rencontres.